Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Grand Bien Vous Fasse. C'est sans doute le trouble mental le plus répandu dans nos sociétés occidentales, jadis nommé mélancolie, spleen, c'est un état décrit il y a plus de 2500 ans en Grèce par Hippocrate, la dépression, elle touche plus de 350 millions de personnes à travers le monde et près d'une personne sur cinq traversera un épisode dépressif dans sa vie. Mais c'est une maladie qui reste encore méconnue. Un documentaire diffusé samedi prochain à 22h20 sur Arte aborde par exemple la piste inflammatoire cérébrale qui pourrait provoquer une dépression. Nous verrons également ce matin quels sont les facteurs de risque, pourquoi certaines personnes développent une dépression après certains événements et pas d'autres, quel rôle joue le stress chronique, quels sont les moyens de prévention, comment limiter les conséquences d'une dépression sur la qualité de vie. Vous pouvez réagir et poser vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook et au standard de France Inter au 01 45 24 7000. Clarisse et Ulysse attendent vos coups de fil. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, plus affûté que jamais avant le marathon de Paris dimanche prochain. N'hésitez pas à l'encourager sur notre page Facebook.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Maman, ça va pas du tout, papa.
Mais qu'est-ce qu'il a ?
Je sais pas. Je crois qu'il fait une dépression. Il parle plus depuis des mois et ça le rend dingue. J'essayais de lui parler, mais bon, vous le connaissez. Hein, je parle à un mur.
En plus, les dépressifs, plus t'essaies de les convaincre que tout va bien pour eux, et plus tu les enfonces.
Justement, il faut qu'ils se bougent. Il faut aller voir des expos, aller au cinéma, je sais pas, qu'ils fassent du sport, aller voir des amis.
Hugo, ton père va vraiment mal. Alors les expos, les amis, le ciné, ça c'est pour des gens qui vont bien. Hein ? Des remèdes pour un petit coup de blues passager. Il s'en fout de tout ça.
Un extrait de Bienvenue parmi nous de Jean Becker en 2012 avec nous pour évoquer quelques causes de la dépression dont la piste inflammatoire et les moyens de prévention. Pascal-Henri Keller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychanalyste, professeur émérite à l'université de Poitiers et vous avez publié un Que sais-je, opus consacré à la dépression. Bonjour professeur Antoine Pellissolo.
Bonjour.
Chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Dernier ouvrage paru, Retrouver l'espoir, abécédaire de psychologie positive chez Odile Jacob. Professeur Pellissolo, c'est une question que je pose à tous mes invités médecins. Quels sont vos éventuels conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique ?
Alors j'ai effectivement travaillé dans le passé pour des collaborations avec des laboratoires et essentiellement en ce moment je coordonne une étude sur un produit anxiolytique, donc c'est pas exactement dans le même domaine mais c'est vrai que je m'occupe un peu de médicaments.
Pascal-Henri Keller, qu'est-ce que la dépression, issue du latin depressio qui veut dire enfoncement, la dépression que l'on appelait jadis mélancolie, spleen ?
Alors la dépression, ce qu'on appelle aujourd'hui dépression, c'est un état de grande souffrance dépressive. Mais évidemment, puisque vous me posez la question après avoir dit que c'était une maladie, je m'inscris en faux sur le fait qu'il puisse s'agir d'une maladie. Et d'ailleurs, sur le site de l'OMS, quand on va voir à dépression, il n'y a plus marqué maladie. Mmh. C'est un trouble mental qui peut arriver à tout le monde, c'est ce qui est précisé, et qui peut surtout être diagnostiqué par des non-spécialistes, donc des non-médecins. Mmh. Donc on voit bien que la dépression, c'est surtout un état qui fait débat dans le milieu médical, dans le milieu psychologique et dans la société en général, puisque les sociologues commencent à se pencher aussi sur cet état.
Professeur Pellissolo, c'est pas une maladie la dépression ?
Alors c'est une grosse provocation à notre égard. Non, surtout à l'égard des personnes qui en souffrent. Je pense que toutes les déprimes en tout cas ne sont pas des dépressions. Tous les états dépressifs et les symptômes dépressifs ne renvoient pas à des maladies, effectivement. Mais la maladie de la dépression existe. Ça, je crois que les médecins en tout cas, n'en discute pas.
Quelle est la différence entre une déprime passagère et un épisode dépressif ? Pascal-Henri Keller.
Alors, si j'ai utilisé le terme de souffrance dépressive, c'est pour laisser entendre que ça peut aller de la plus légère à la plus grave et à la plus douloureuse. Parce que, même si M. Pellissolo vient de dire que c'est une injure, une provocation, pardon, y compris pour les malades, je pense le contraire. C'est-à-dire que, dans un article très célèbre publié dans la revue Esprit, mon collègue François Gonon a montré que les enquêtes aux États-Unis, au contraire, stigmatisent maintenant les gens stigmatisent ceux pour qui on dit c'est génétique ou c'est une maladie, c'est dans leur cerveau. Parce que effectivement, à partir du moment où on dit que c'est dans le cerveau, pour l'entourage, il n'y a plus de possibilité d'interagir avec le déprimé.
Antoine Pellissolo.
Oui, alors tout ça est intéressant. De dire que c'est dans le cerveau, je pense que c'est une banalité, parce que tout ce qui est produit par l'esprit et même qui pilote le corps, c'est le cerveau. On a des idées maintenant assez précises de dysfonctionnement. C'est vrai qu'il y a des bouleversements au cours d'une dépression qui sont des bouleversements de certaines fonctions du cerveau. Après, comment on identifie tout ça et où sont les limites. C'est vrai que c'est compliqué, mais je crois qu'aujourd'hui, au moins, on a un regard qui est scientifique sur la dépression.
Alors, dans Science et Avenir, le psychiatre Philippe Fossati parle de ces patients dépressifs comme des véhicules qui n'ont plus d'essence. Le cerveau des dépressifs est en panne de désir, professeur Pellissolo.
Alors, oui, on peut dire ça. Pas toujours complètement en panne, heureusement, mais on peut dire que certaines fonctions, le désir, l'énergie, la capacité à réfléchir, tout simplement, peut être énorme, enfin très ralenti par une dépression, perdre, je sais pas, 20%, 30%, c'est moyen, avec surtout quelque chose qui se rajoute, qui est quand même la douleur morale, qui se rajoute en plus, parce que c'est pas seulement une perte, c'est surtout des pertes, mais il y a aussi en plus une douleur qui est aussi souvent insupportable que la douleur physique.
Pascal-Henri Keller.
Oui, cette comparaison avec un véhicule sans essence montre bien qu'on a besoin d'une métaphore pour parler de la souffrance dépressive, à défaut d'avoir pu trouver, jusqu'à maintenant en tout cas, de biomarqueurs pour diagnostiquer la dépression. Si on a l'occasion, on parlera peut-être des modalités diagnostiques de la dépression, mais en tout cas, médicalement, il n'y a pas de moyen d'identifier une personne dépressive en faisant une prise de sang, par exemple.
Peut-on dresser un portrait robot d'une personne dépressive? Quels sont les critères standards d'une dépression?
Alors,
professeur Pellissolo,
on a des symptômes, on va dire, communs, parce que après, il y a énormément de formes différentes selon les personnes et selon les maladies. Les symptômes vraiment communs, c'est la tristesse très forte, une tristesse qui est pas juste quelque chose de passager, mais quelque chose de permanent, de durable sur plusieurs semaines. La perte du plaisir à faire les choses. On a du mal à prendre du plaisir, à manger, à jouer, avec ses enfants, à parler avec ses amis, etc. On a souvent perdu le sommeil. Ça, c'est vraiment un des signes aussi premiers, c'est-à-dire un dérèglement du sommeil. On a perdu l'appétit, donc c'est des symptômes comme ça qui sont quasiment physiologiques du corps lui-même. Et puis par ailleurs, on a tendance à ressasser les choses, à ressasser toujours des problèmes sans fin et à être épuisé. Dernière chose, c'est l'épuisement, la fatigue, qui n'est pas une fatigue normale parce qu'en fait, on l'a dès le matin et elle empêche d'agir. Dans certains cas, c'est vraiment une incapacité à faire les choses.
Pascal-Henri Keller.
Alors, pour moi, il n'y a pas de profil type de la personne déprimée, puisque pour le psychanalyste en particulier, pour les psychanalystes en particulier, il n'y a que des cas singuliers. Et on ne peut pas dire de quelqu'un il est déprimé parce qu'il y a une succession de symptômes. Le diagnostic de dépression, j'ai sous les yeux la Geriatric Depression Scale qui est supposée diagnostiquer chez la personne âgée de 60 jusqu'à plus d'âge. La première question, c'est êtes-vous satisfait de votre vie? Quand on est en maison de retraite, je ne sais pas si on est très content de sa vie. Avez-vous renoncé à un grand nombre d'activités? Avez-vous le sentiment que votre vie est vide? Vous ennuyez-vous souvent? C'est à partir de questions comme ça qu'on diagnostique chez les personnes âgées la dépression. Et le problème, c'est la conséquence, c'est-à-dire la prescription d'antidépresseurs.
Professeur Pellissolo.
Oui, alors c'est encore autre chose, là, effectivement, les prescriptions. Ces questions-là ne se suffisent pas, effectivement, en elles-mêmes. Ce qui fait la caractéristique d'un état dépressif, et je persiste bien, c'est un état à un moment donné, ce n'est pas une personne en général toute sa vie, heureusement, c'est la concomitance de tout ça. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les dérèglements se produisent en même temps. Et donc, effectivement, vous n'êtes pas satisfait, vous avez tous ces problèmes-là, tout ça en même temps, quasiment de manière permanente. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse dire que toute personne âgée, par exemple, et quel que soit l'âge d'ailleurs, ait tous ces problèmes-là, à la fois psychiques, émotionnels et physiques en même temps.
Bonjour Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine.
Bonjour Aline.
Vous aviez quelque chose à dire ?
Oui, je pense qu'on pourrait tous se sentir déprimés ou dépressifs à vous entendre. Et peut-être qu'il faudrait dire quand même que c'est une question de durée et de non-réversibilité, parce que une journée, on peut se sentir extrêmement triste. Chez le dépressif, on a l'impression que ça dure.
Oui, la question du temps, c'est essentiel. C'est deux choses. C'est à peu près toute la journée, pas forcément minute par minute, mais une grande partie de la journée. Et pendant, on dit au moins deux semaines. En fait, c'est souvent beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est pas juste cinq minutes dans la journée, ni une heure, ni deux jours. C'est de manière durable. Et surtout, ça ne réagit pas à l'environnement, à ce qui se passe. C'est-à-dire que même quand il vous arrive quelque chose de favorable, vous allez peut-être le ressentir trois minutes, mais tout de suite après, vous allez revenir à votre état morbide. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui va bien et qui même est juste avec une petite souffrance.
Allez, nous attendons toutes vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et au standard de France Inter 01 45 24 7000. En attendant, il est l'heure de retrouver la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Comment ça va depuis La Rochelle?
Plutôt pas mal.
Alors cette semaine, dans la petite philo de la vie quotidienne, vous vous demandez pourquoi nos vies ne sont-elles pas si faciles à vivre?
Voilà Ali, hein, vous l'aurez entendu, chanté par NTM, tout n'est pas si facile et la vie tient parfois à un fil. Et on a donc parfois, avec plus ou moins d'intensité, du mal à vivre. Et quand ce mal de vivre s'installe, on vient de le dire, hein, quand on vient à en souffrir tellement qu'il nous empêche de nous lever, de passer à l'action ou de prendre plaisir à voir nos proches, eh bien la médecine peut lui donner le nom de dépression. Mais la possibilité même d'avoir du mal à vivre n'a rien d'évident. Comment donc pourrait-on avoir du mal à vivre? N'y a-t-il rien de plus naturel que la vie? Nos vies, au contraire, devraient être faciles à vivre, ou du moins, nos vies devraient être vécues sans que l'on ne se pose trop de questions, puisque la vie est en nous ce que, sans que nous l'ayons décidé, et que nous vivons de cette vie, justement, chaque jour, sans que nous ayons besoin d'y penser.
Mais il ne suffit pas non plus, Thibaut, de se laisser vivre pour être heureux.
Oui, c'est vrai, et c'est là qu'il faut commencer à distinguer. À distinguer entre vivre et exister. Nous autres humains ne faisons pas que vivre. Nous avons aussi conscience de vivre et cette conscience-là, c'est ce qui nous jette dans l'existence. Cette conscience-là, elle est à double tranchant. C'est à la fois ce qui nous distingue de tous les autres êtres vivants et c'est en même temps ce qui nous donne le vertige. Savoir que j'existe, c'est toujours en même temps avoir conscience que j'aurais pu ne pas exister et que je n'existerai pas toujours. La conscience de notre existence se dégage sur le fond d'une grande incertitude et d'une grande inquiétude.
Le mal de vivre, Thibaut, c'est donc cette conscience aiguë de la fragilité de notre existence.
Oui, et jusqu'à provoquer un fort sentiment de dégoût, une nausée, hein, pour reprendre le titre du premier roman de Sartre. Dans ce roman d'ailleurs, dont le premier titre était Mélancolia, hein, vous aviez parlé de mélancolie tout à l'heure, Sartre raconte la manière dont son héros, Antoine Roquentin, perd peu à peu goût à la vie en prenant peu à peu conscience donc de l'indétermination de son existence. Sartre écrit « Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le cœur et tout se met à flotter, comme l'autre soir. Voilà la nausée. » Sartre décrit donc ce moment où la confiance naïve de la vie naturelle disparaît et nous laisse avec la conscience d'une existence qui n'est plus justifiée par rien de sûr.
Alors comment fait-on pour s'en sortir, Thibaut? Je suis suspendu à vos lèvres.
Alors, je ne sais pas si l'on s'en sort vraiment, mais l'on s'en arrange tous d'une certaine manière. Alors on va croire au destin, on va croire en Dieu, on va se mettre à philosopher, ou alors s'engager pour telle ou telle cause. Et toute la philosophie existentialiste que Sartre développe ensuite est en fait une réponse à ce problème. Contre l'absurdité de l'existence, il faut agir, s'engager, se projeter et à travers ce que l'on fait, trouver de quoi se justifier d'exister. Alors c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile hein, dans nos vies, c'est facile à dire mais pas forcément facile à faire. Mais cette difficulté-là, eh bien, elle est bien une bonne raison d'être déprimé. Mais c'est aussi une perspective assez magnifique, parce que c'est au fond la perspective de notre liberté. Nous sommes tellement libres que nous sommes les seuls à pouvoir donner du sens à nos vies.
Nos invités ont pris pas mal de notes pendant votre chronique. Pascal-Henri Keller.
Oui, c'est surtout sur cette façon de traduire la recherche à partir de l'absurdité de la vie qui est celle du sens, parce que c'est vrai que quand on va chercher dans les neurones de son cerveau, ça n'a pas de sens pour soi. En revanche, chercher un sens à sa souffrance psychique, ça oui, c'est quelque chose qui implique le patient.
Professeur Antoine Pellissolo.
100% d'accord.
Très bien. La petite philo de la vie quotidienne, c'est tous les lundis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
À lire EBI sur France Inter. Là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. Ces mêmes traits d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su.
souffrirai de bloquer. Jamais su danser, t'as jamais su glisser.
Jamais su danser.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h24 et on s'intéresse ce matin à certaines causes de la dépression, notamment la piste inflammatoire évoquée dans un documentaire diffusé samedi prochain à 22h20 sur Arte avec le psychologue et psychanalyste Pascal-Henri Keller qui publie un Que sais-je sur la dépression et le psychiatre Antoine Pellissolo qui a publié Retrouver l'espoir, abécédaire de psychiatrie positive. Et au téléphone, nous accueillons Oriane. Bonjour Oriane, vous appelez de Vannes.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Merci.
Alors, dites-nous tout sur notre sujet du jour.
Alors, c'est important pour moi de témoigner que mon médecin veut me mettre dans la catégorie dépression, alors que j'ai vécu un stress post-traumatique qui a été diagnostiqué et que les symptômes ne sont pas les mêmes.
D'accord.
Simplement, j'ai eu une difficulté psychique. Le traitement n'est pas le même non plus. Pour une dépression, on a des médicaments spécifiques. Et pour un stress post-traumatique, il faut agir sur le stress causal et sur les conséquences de la mémoire traumatique pour laquelle on est en évitement. Maintenant, quand je vais voir mon médecin, il me dit si tu veux être prise en charge par rapport à la pathologie que tu as, il faut mettre ce symptôme dans la case dépression.
D'accord.
J'ai présenté mon dossier intègre en disant que j'ai eu un stress post-traumatique à l'affection de... En sachant que ce n'est pas l'affection de longue durée, je l'ai présenté à la maison de l'autonomie, à la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça a été refusé.
Professeur Pellissolo.
Mon médecin m'a dit, t'aurais marqué dépression, ça serait passé.
Professeur Pellissolo, sur cette question très technique.
Oui, c'est assez technique. Je pense que ça renvoie à des questions malheureusement administratives, effectivement. Aujourd'hui, par exemple, le diagnostic de stress post-traumatique est quand même un diagnostic reconnu, en tout cas pour certaines aides. Donc je pense qu'il faut peut-être en reparler, peut-être voir un spécialiste qui pourra vous orienter au mieux, parce que si vous relevez vraiment de ce diagnostic-là, il vaut mieux, effectivement, en tout cas, le prendre en compte. Alors, c'est juste, c'est pas des cases, hein, c'est des diagnostics et chaque personne est différente et vous pouvez aussi avoir des éléments de dépression associés. C'est peut-être ça qui fait confondre un petit peu les choses.
Pascal-Henri Keller.
Oui, ce que vient de décrire cette auditrice me fait penser à la manière dont Roland Gori, dans la médicalisation de l'existence, décrit, à savoir que la société veut s'occuper de tout chez le sujet, chez l'individu souffrant, et le mettre effectivement dans une case. Et comme je le disais tout à l'heure, le diagnostic est une bonne façon de mettre quelqu'un dans une case.
Aline Perraudin, de Moi, Santé Magazine.
Ça m'évoque le burn-out, on essaie de le mettre dans une case, est-ce que c'est une maladie ou pas? Néanmoins, il y a une souffrance au travail.
Merci beaucoup, Oriane, de nous avoir appelé de Vannes. Alors, avant d'évoquer la piste inflammatoire, quels sont les événements qui peuvent déclencher une dépression? Pascal-Henri Keller.
Alors, en tant que tel, je crois qu'aucun événement type, pour en revenir à la question aussi de tout à l'heure, ne peut déclencher à lui tout seul un état dépressif, une souffrance dépressive.
Le deuil à lui tout seul, une séparation amoureuse
absolument. En venant ici, un chauffeur de taxi m'a demandé sur quoi j'allais parler et m'a parlé d'un chagrin d'amour qu'il a surmonté alors qu'on lui avait proposé de prendre des antidépresseurs. Et la manière dont il l'a surmonté, c'est sa manière singulière. Il est retourné dans son pays d'origine, puis il est revenu avec une autre femme, à de nouveaux enfants. Bref, il a trouvé en lui une force personnel, mais la rupture amoureuse, l'avait mis effectivement au fond du trou, selon son expression.
Professeur Pedissolo.
Oui, alors, le problème, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que certaines dépressions se déclenchent sans rien du tout. Malheureusement, il y a des gens qui ont probablement cette vulnérabilité-là. Pour d'autres, un événement d'allure banale, comme un événement de vie, un problème au travail, etc., va suffire à être un petit peu l'étincelle qui déclenche les choses. Pour d'autres personnes, quelque chose de très rude, comme ça, va les mettre au fond du trou, comme vous dites, mais pendant 2 jours, et puis ils vont s'en remettre, et puis d'autres vont pas s'en remettre. Donc, le danger, ce serait de dire, en fait, comme la plupart des gens s'en remettent, ça va passer tout seul. Et je crois que ça, c'est un message qui n'est pas tout à fait favorable.
Mais pourquoi certains événements provoquent chez certains individus un épisode dépressif et chez d'autres une simple déprime passagère? Quel est le substrat?
Si on savait, on serait très fort. Mais parce que, en gros, il y a soit une résonance personnelle qui fait que, en gros, l'événement, dans sa catégorie, on va dire, c'est-à-dire l'événement de perte, on parle des deuils et des séparations, c'est quand même souvent ça, va réveiller d'autres souffrances antérieures et qui vont être là une caisse de résonance et donc quelque chose de beaucoup plus intense que ce qu'on pourrait croire au départ. Soit simplement, on était au bord du gouffre, on va dire, et il suffit de pas grand chose pour tomber dedans. Et donc, dans ce cas-là, quel que soit l'événement où on va être déstabilisé, ça peut suffire. Et c'est là vraiment qu'on a la marque de ce caractère multifactoriel de la dépression. On dit au moins 3 facteurs, bio, psycho, social. Social, c'est l'environnement affectif et les liens qu'on a aux autres. La biologie qui joue un certain rôle et la psychologie qui joue un rôle probablement prédominant. Mais les 3 facteurs interagissent les uns avec les autres.
Pascal-Henri Keller, d'Odeline.
Alors, je m'interroge sur la façon de parler de la dépression. En effet, pour moi, j'ai envie de remplacer, et quand je rencontre mes patients qui me disent « je fais une dépression », ce que je leur dis, c'est que la dépression, c'est d'abord une histoire. C'est inscrit dans l'histoire de la personne. Quand vous disiez, et quand Pellissolo disait aussi qu'il y a des événements qui peuvent paraître minimes et qui déclenchent quelque chose de très fort chez quelqu'un, ça ne peut être exploré qu'en s'intéressant à l'histoire de la personne. Votre collègue Guy Birenbaum, qui a fait une dépression, qui a écrit sur la dépression,
très beau livre.
On voit, magnifique livre, on voit bien en l'écoutant que c'est ce qui s'est passé dans sa vie qui a marqué l'entrée dans la dépression. C'est une histoire familiale qui avait été refoulée, entièrement tue jusque-là, et ce qui se passait dans son travail, je me souviens bien, a déclenché un état dépressif et une souffrance dépressive d'autant plus intense, encore une fois, qu'elle avait été masquée jusque-là dans l'histoire de sa famille.
En l'occurrence, la déportation de ses parents. Voilà. Professeur Pedissolo.
Oui, alors tout ça, c'est des histoires, comme vous dites, l'histoire de vie qui va être utile de reconstruire ou de comprendre, souvent plutôt après la phase dépressive. Parce que quand on est dans la phase dépressive, alors je crois que Guy Birenbaum le raconte bien, il est tellement épuisé que de toute façon, ce travail de parole n'est en général pas possible. Donc, il ne faut pas forcément avoir l'idée qu'il faut à tout prix résoudre le problème de fond avant de pouvoir aller mieux. Parce que sinon, souvent, on a tendance à s'embourber dans cette fatigue qui peut vous atteindre complètement.
Aline Perraudin.
Je trouve que parler de dépression sans parler de l'histoire, ça ôte toute la dimension de la dépression particulière. Et quand on parle de facteurs bio-psychosociaux, on pourra en parler pour plein de maladies, comme le mal de dos, et c'est pas singulier, alors que la dépression, c'est vraiment quelque chose qui touche à l'âme.
Pascal-Henri Keller.
Oui, je rajouterais que c'est une souffrance qui est inscrite dans l'histoire de la personne, c'est donc une souffrance qui est relationnelle. L'entrée en matière de notre émission, c'était bien un dialogue intrafamilial où les gens cherchent à comprendre la souffrance de cette personne qui vit avec nous. Et il n'y a qu'en remontant, en parlant avec la personne. Il ne s'agit pas de forcer la personne à parler, mais il s'agit d'avoir dans l'idée que la souffrance dépressive, elle est d'abord une souffrance existentielle.
Antoine Pedissolo.
Oui, ce sont les thèmes tellement forts, et on a vu avec l'approche philosophique de tout à l'heure, il n'est pas très étonnant que tout soit mis à mal, dont les liens. Mais je pense que là aussi, cette réflexion, elle est forcément complexe, elle vient le plus souvent après, quand on est sorti. Alors, dans les cas de dépression grave, là je parle de dépression sévère, dans lesquels cette réflexion sur soi est quasiment pas possible à cause des problèmes de concentration, des problèmes d'épuisement psychique. Et donc il y a souvent une phase de reconstruction qui est vraiment importante au départ.
Bonjour Marie, vous appelez de Bordeaux, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors vous avez une question?
Oui, alors en fait, elle est assez connectée avec ce que viennent de dire les intervenants. Moi, ma question, c'est dans quelle mesure la dépression n'est pas un signe révélateur et ne pourrait pas être positivée, hein, à cet égard, un signe révélateur qu'il y a des éléments de sa situation qui ne correspondent pas à l'individu et qui s'est déconnecté de son propre désir. On en fait souvent une interprétation chimique, purement chimique, mais on l'étouffe avec des médicaments. Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être réceptif à cet état dans la mesure où il peut être révélateur que l'individu s'est déconnecté de son désir et doit changer certains éléments de son environnement?
Très bonne question, Marie. Et je me souviens d'un ouvrage de Paul Fédida qui s'appelait Pierre Fédida, Les bienfaits de la dépression. Pascal-Henri Keller.
Ben, j'y pensais en même temps que vous. En effet, Les bienfaits de la dépression, c'est un ouvrage qui a marqué les esprits parce que pour la première fois, enfin, on disait de la dépression que ce n'était pas une pathologie à combattre, mais un symptôme à interroger. Et c'est lui qui a fait la différence entre la dépressivité qui accompagne finalement l'existence de tous les humains, et depuis 2500 ans, voilà. Et puis l'état déprimé, qui est un état particulier, particulièrement douloureusement vécu, douloureusement ressenti, et qui nécessite une intervention relationnelle, même si, et il n'est pas contre les médicaments, Pierre Fédida. Il dit pas qu'il est contre, il dit simplement que c'est une étape qui peut être nécessaire pour certains patients, mais qui ne doit pas, comme le dit l'intervenante, là, rendre chimique cet état. Voilà.
Marie, sur ce que vient de dire Pascal-Henri Keller.
Merci, hein, on est dans le compromis. Effectivement, je pense que ça doit s'accompagner d'un suivi en tout état de cause. Hein. Mais la prise de médicaments est souvent envisagée comme la solution la plus simple et pas forcément la plus pertinente à long terme.
Aline Perraudin.
Pour rejoindre ce que dit madame, certains pensent que la dépression pourrait être comparée par exemple à la fièvre comme un symptôme et qu'on pourrait, il faudrait en chercher la cause psychologique. Peut-être c'est pas aussi idiot parce qu'il y a tellement de formes de dépression, ce n'est peut-être qu'un symptôme.
Professeur Pellissolo.
Ouais, alors vous avez raison, mais le problème c'est que c'est pas que ça effectivement. Il y a des cas où la dépressivité ou même la dépression est probablement le symptôme d'autre chose, mais il y a aussi des cas où il y a une maladie, je suis désolé, je reviens là-dessus, qui a ses origines dans certains cas qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire avec une forte composante biologique. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le nier, parce qu'il suffit de rencontrer des personnes qui, malgré tout ce qui est favorable pour eux dans leur vie, et ça, c'est souvent une des plaintes, dire j'ai tout pour être heureux, tout va bien. Et effectivement, quand elles sont rétablies, elles constatent que c'est le cas, qui sont malheureusement en prise avec un dérèglement en partie biologique. Je dis bien en partie, mais l'un n'empêche pas l'autre, et toutes les dépressions ne sont pas les mêmes.
Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé de Bordeaux. Alors dans quelques instants, nous évoquerons la piste inflammatoire pour expliquer certaines dépressions. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000.
Grand bien vous fasse sur France Inter. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Un extrait de la BO de Pulp Fiction, et c'est bien sûr Chuck Berry, et c'est complètement antidépresseur, hein, Pascal-Henri Keller.
Ah oui, c'est totalement antidépresseur pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui dansent aussi en même temps, presque dans ce studio.
Mais vous n'avez pas dansé en studio, je suis très déçu.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h38 et on s'intéresse ce matin à certaines causes de la dépression, notamment la piste inflammatoire évoquée dans un documentaire diffusé samedi prochain sur Arte à 22h20 avec le psychologue et psychanalyste Paul-Henri Keller et Pascal-Henri Keller, pardonnez-moi, et le psychiatre Antoine Pellissolo. Est-ce que on a quelques courriels, notamment des questions sur l'hérédité. Est-ce qu'il existe un terrain favorable à la dépression, Antoine Pellissolo?
Alors quand on parle d'hérédité, on parle à la fois de la génétique et puis de la famille, avec ce qu'on peut apprendre en fait ou vivre dans sa famille. L'hérédité au sens biologique du terme, pour la dépression, elle n'est pas du tout établie, en tout cas pour toutes les dépressions. Il y a peut-être, alors il y a même certainement pour les dépressions qui sont proches de ce qu'on appelle le trouble bipolaire, où là il y a une forte participation héréditaire et probablement génétique à cette forme de maladie. Et donc certaines dépressions s'en rapprochent. Mais la grande majorité, on n'a pas, je dirais, de certitude sur une transmission directe, en tout cas peut-être une transmission d'une vulnérabilité à tout ce qui est émotions négatives, etc. Mais le reste, c'est plutôt familial.
Pascal-Henri Keller.
Je crois que la question qui est posée permet de clarifier les choses. Hérédité peut signifier effectivement inscrit dans les gènes, comme la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. Ce qui est en question, ce serait plutôt l'héritabilité. Est-ce que la famille, une famille de déprimés ne rend pas la dépression comme un héritage, ne transmet pas à ses descendants la dépression comme un héritage, un peu comme quelqu'un qui meurt transmet ses dettes à ses héritiers. Autrement dit, dans une famille où il y a des déprimés, ça ne veut pas dire que c'est inscrit dans les gènes, ça veut dire que ça a été hérité, mais par des conduites. André Green parle du syndrome de la mère morte, où une mère, ou en tout cas quelqu'un d'important pour le sujet, est mort psychiquement, ça peut être psychiquement, et du coup a provoqué chez la personne une envie de s'identifier à cette souffrance dépressive de la personne avec laquelle elle interagit habituellement.
Question de Julie sur Facebook, est-il vrai que l'on ne guérit, entre guillemets, jamais de la dépression? Antoine Pellissolo.
Je crois que c'est un peu exagéré. On peut sortir de la dépression, on peut faire un travail de fond qui permet de mieux s'en protéger. Alors certaines personnes ont probablement, malheureusement, c'est un petit nombre, une fragilité qui peut rester effectivement toute la vie. Mais le plus souvent, quand on la soigne bien, on peut avoir un vrai résultat à long terme.
Plus largement, la dépression, c'est une agression du cerveau qui laisse des traces avec des séquelles structurelles et fonctionnelles qui fragilisent le cerveau.
Alors ça, on commence à le penser. Je voudrais pas être trop extrémiste sur ce sujet-là, parce qu'il reste encore, je dirais, beaucoup de questions scientifiques, mais on commence à avoir, par exemple, des éléments d'imagerie cérébrale qui montrent que certaines structures du cerveau ont gardé une trace. Et puis surtout, la trace, elle existe en gros dans la mémoire et dans des réflexes de pensée, et ça, on sait qu'il faut y travailler. Quand vous avez été déprimé, vous avez plus de risques de retomber comme sur une peau de banane dès qu'il se passe quelque chose. Et donc ça se travaille. Heureusement, il y a une forme de plasticité dans le mauvais sens, à cause de la dépression, mais aussi dans le bon sens, grâce aux thérapies et un travail qu'on peut faire pour mieux contrôler ces éléments-là.
Pascal-Henri Keller, Dodeline à nouveau.
Oui, parce que je repense à ce qu'on a appelé pendant très longtemps la vulnérabilité génétique, qui était en fait un aveu d'échec de la piste génétique. Et ça, cette piste génétique, elle est restée dans les esprits. Pour quelle raison? Parce que les études qui avaient dans un premier temps claironné haut et fort, ça y est, on a trouvé le gène de la dépression, ça a été repris par les journaux. Mais lorsque moins de 10 ans après, de nouvelles études sur des échantillons beaucoup plus larges ont montré que cette piste était il n'y avait pas d'issue à cette, et qu'on ne pouvait pas montrer que la dépression était liée au moindre gène. Du coup, les journaux n'ont pas repris ces études. Autrement dit, ce qui est resté dans l'esprit des gens, c'est qu'il y a cette vulnérabilité génétique, mais qui condamne l'individu à la dépression.
Arrête de broyer du noir. Ne te laisse pas aller. Reprends-toi. Ceux qui prodiguent ces conseils ignorent souvent tout de la dépression. Une inflammation de notre organisme pourrait avoir une incidence sur notre état émotionnel. Un phénomène qui, selon les chercheurs, pourrait favoriser une dépression. Carmine Pariente dirige l'étude. Selon lui, cette piste de recherche pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements.
Le problème avec la dépression, c'est qu'un tiers des patients ne répond pas aux antidépresseurs classiques. Notre hypothèse, c'est qu'il pourrait s'agir de patients dont l'organisme présente un niveau d'inflammation élevé.
Les troubles psychiques pourraient donc aussi être d'origine biologique, et bien plus qu'on ne le pensait jusqu'ici.
Un extrait du documentaire « Dépression, de nouveaux espoirs » qui sera diffusé sur Arte samedi prochain à 22h20. Professeur Pellissolo, une catégorie de dépression aurait donc une composante totalement différente d'autres dépressions ?
Ou en tout cas avec des éléments associés un peu différents. Donc c'est une des pistes de recherche importantes depuis maintenant plusieurs années sur dans le monde entier d'ailleurs, hein, puisque ça prouve l'intérêt de cette piste-là, sur l'idée que dans certaines dépressions associées à des vraiment à des marqueurs, là cette fois, qui sont mesurables, on a des taux d'inflammation anormaux, qui sont pas des grandes inflammations comme des maladies aiguës au plan somatique, mais des marqueurs qui sont quand même élevés.
C'est quoi une inflammation ?
Alors une inflammation, c'est une réaction du corps qui se défend en général contre une infection ou contre une agression extérieure, et qui produit, vous savez, essentiellement des anticorps et des substances qui vont à la fois reconstruire, mais aussi détruire des choses, puisqu'il faut détruire des agents extérieurs. C'est ce qui se passe quand on cicatrise, par exemple, au niveau de la peau, mais aussi au niveau des infections. Et malheureusement, il y a des effets collatéraux. Et l'idée qu'on a, c'est que dans des formes d'infections de bas niveau, comme on dit, des répétitions d'agressions virales et alimentaires, et c'est là qu'on vient aussi maintenant à l'alimentation, on peut produire des toxines qui sont toxiques pour les neurones, neurotoxiques, et qui vont en plus passer plus facilement dans le cerveau, alors que d'habitude, il y a une barrière qui protège le cerveau. Donc toutes ces idées-là, c'est qu'il y a des anticorps et des substances toxiques qui vont abîmer, alors pas gravement en général, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais qui vont abîmer le fonctionnement de certains neurones et donc fragiliser en gros le cerveau émotionnel, le cerveau qui s'autorégule et qui va moins bien se défendre pendant un certain moment. Et c'est ça qui expliquerait que certaines dépressions résistent autant et résiste aussi aux traitements actuels qui sont les antidépresseurs classiques.
Et je précise que plusieurs études montreraient la présence de marqueurs de l'inflammation dans le cerveau des dépressifs majeurs, notamment dans la zone de régulation des émotions. Une étude canadienne menée à Toronto révèle une inflammation supérieure de 30% chez les personnes déprimées par rapport aux non-déprimés. Est-ce que les maladies inflammatoires chroniques sont associées à un risque accru de dépression, professeur Pellissolo ?
Oui, c'est justement une des raisons qui ont poussé à ces pistes de recherche. En fait, il y en a trois. Il y a le fait que les maladies, alors par exemple, vous ne connaissez peut-être pas le lupus, la maladie de Crohn, le diabète d'une certaine manière est une maladie aussi auto-immune avec une inflammation de fond, s'accompagne de dépression. Il y a un taux plus élevé qui peut aller jusqu'à 30-40% de dépression chez ces personnes. Deuxième chose, quand on traite avec des agents qui agissent sur l'inflammation, par exemple l'interféron, pour certaines maladies virales ou pour la sclérose en plaques, par exemple, on déclenche malheureusement des dépressions qui sont des effets secondaires qui ressemblent vraiment à la dépression. Et puis dernière chose, chez les déprimés, et ça c'est assez général, il y a un certain nombre de symptômes physiques qui ressemble d'une certaine manière aux réactions, alors qu'on appelle des comportements de maladie. En fait, quand on est malade, par exemple, la grippe provoque un abattement, un épuisement, et on a souvent plus envie de rien faire. Et il y a sûrement une composante de la dépression qui relève de cette réaction du corps, une réaction de mise au repos et de douleur générale qui permet de se protéger d'une certaine manière et qui est probablement liée au processus inflammatoire.
Pascal-Henri Keller.
Alors, la recherche scientifique, y compris sur le cerveau, c'est évidemment fondamental. Et l'intérêt de ce documentaire, c'est de montrer comment, par exemple, la malbouffe, on vient d'en parler à l'instant, la malbouffe peut provoquer un dérèglement de manière générale, y compris montant jusqu'au cerveau, on peut dire. Mais le deuxième point, c'est que dans ce documentaire, le point de départ, c'est ce que vient de rappeler Pellissolo, c'est que certains médicaments n'agissent pas sur les patients déprimés. Et au lieu de se demander qu'est-ce qui fait que psychologiquement certains patients résistent, on cherche à vaincre la résistance biologique de ces patients. Autrement dit, c'est une piste de recherche sur l'efficacité des antidépresseurs, beaucoup plus que sur la dépression en elle-même.
Professeur Pellissolo.
Oui, alors l'un n'empêche pas l'autre, à nouveau. C'est-à-dire qu'on fait aussi tout le travail sur les déterminants psychologiques qui sont aussi essentiels. Et puis, c'est pas juste constater que ça marche pas, c'est qu'il y a au-delà de ça, maintenant, des solutions, et on est en train de tester des solutions pour agir sur l'inflammation de ces patients de manière très ciblée, puisque maintenant, la médecine se personnalise de plus en plus, et on essaye d'avoir des signatures de ces problèmes biologiques et des réponses qui vont avec. Donc, ce n'est pas de la même chose pour tout le monde. On arrive à personnaliser, en tout cas, c'est un des objectifs de la recherche.
Pascal-Henri Keller. Alors,
par rapport à l'étude de Toronto que vous avez citée, comme je le disais tout à l'heure pour la génétique, c'est très important d'attendre les études qui vont confirmer cette étude. Parce que jusqu'à maintenant, entendons bien que dans le documentaire, comme dans les propos tenus par Antoine Pellissolo, c'est au conditionnel, tout est au conditionnel. Il n'y a aucune certitude sur les déterminants biologiques de la dépression.
Bonjour Jeanne, vous vous appelez de Caen. Quelle est votre question? Bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
Alors, je suis étudiante en première année de médecine et on nous apprend que le diagnostic physique peut des fois déceler une dépression. Mmh. Et donc, je me demandais si, en fin de compte, quand on devient médecin, pas du tout psychiatre, mais plus du côté physique, par exemple dermato ou cancéro, je me demandais si justement ce qu'on faisait physiquement, est-ce que ça peut justement juste éviter la catastrophe de dépression, ou au contraire montrer que le physique du patient peut se rétablir, donc aussi le psychique.
Professeur Pellissolo, sur la question de Jeanne, étudiante en première année de médecine.
Bienvenue déjà à l'université de médecine et dans ce beau métier. Là, la réponse, c'est en gros, c'est un peu la tarte à la crème, mais je crois qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'actualité, c'est le fait que corps et esprit ne sont plus aussi dissociés qu'on le pense d'habitude. L'organisme est un organisme entier, et quand on agit alors sur le corps, avec l'activité physique, avec l'alimentation, avec les rythmes de sommeil, par exemple, on améliore la santé mentale et inversement. Donc je crois que vraiment, vous avez raison de dire qu'on ne peut pas séparer les deux, même si on est obligé de vous apprendre, au départ en tout cas, un peu organe par organe, parce qu'il faut simplifier au départ.
Pascal-Henri Keller.
Alors, je crains que cette jeune auditrice n'ait besoin de se documenter par elle-même sur la psychologie, parce qu'au cours des études de médecine, il y a 10 heures de psychologie, et je le sais, j'ai donné des cours de psychologie aux étudiants en médecine. Et alors ça a des conséquences, c'est que les antidépresseurs, ils sont... pour 80% prescrits par les généralistes, c'est-à-dire qu'ils ont zéro formation en psychologie. Autrement dit, ceux qui contribuent à répandre à leur insu, évidemment, la fable de la maladie dépression, c'est des gens qui n'ont aucune formation à la psychologie et qui se contentent de la réponse qui est médicale, un médicament pour un symptôme.
Merci Jeanne de nous avoir appelé de Caen. Professeur Pellissolo, j'aimerais qu'on évoque à nouveau la piste inflammatoire, notamment les liens entre l'inflammation de l'intestin, le stress et la possible survenue d'un épisode dépressif. Qu'est-ce qu'on sait exactement ?
Alors tout ça encore au conditionnel, et puis surtout pas forcément de manière très spécifique. Ça peut être en gros pour la plupart des troubles psychiques un petit peu des facteurs communs, alors qui sont, je vous disais tout à l'heure, une agression par l'environnement, et l'agression il y en a tout le temps, hein. C'est les toxiques, c'est les infections virales, c'est maintenant probablement tous les perturbateurs qu'on connaît, qui vont plus facilement passer de l'intestin au sang à cause de l'inflammation. L'inflammation en gros fait des trous, enfin augmente, diminue le filtre normal de l'intestin, donc il y a une perméabilité de l'intestin qui augmente, et donc toutes ces substances passent dans l'organisme, font réagir l'organisme avec les fameux anticorps dont je vous parlais tout à l'heure, donc les auto-anticorps qui signent un peu ce qu'on appelle une maladie auto-immune, et qui vont être eux-mêmes agressifs pour l'organisme en son ensemble, d'où les problèmes de diabète, les problèmes de surpoids, etc., et aussi pour le cerveau, puisque la barrière la barrière de protection du cerveau est également rendue plus perméable. Et donc c'est cette agression de l'ensemble de l'organisme qui peut participer, non pas je pense à créer la dépression en elle-même, mais en tout cas à la faciliter quand on a par ailleurs d'autres facteurs de risque.
Et une étude de l'université du Hedmark en Norvège montre qu'il y aurait une corrélation entre le microbiote et la dépression. Le microbiote, c'est la flore intestinale.
C'est les bactéries qui sont à la fois utiles, mais qui parfois sont déréglées quand on a des perturbations du corps.
Est-ce qu'un régime alimentaire inadapté peut aggraver, voire entraîner un état dépressif?
Alors on peut le penser, là aussi, tout ça, il faut rester raisonnable, ça ne suffit pas à tout expliquer. Mais ce qu'on disait tout à l'heure avec alors, ce qu'on appelle la malbouffe, hein, mais c'est pas absurde, c'est en gros tout ce qui est excessif en hydrates de carbone, c'est-à-dire en sucre, et en protéines animales, est plutôt néfaste, c'est-à-dire produit de l'inflammation, en tout cas pour ce sujet-là. Par ailleurs, au contraire, ce qui est lié aux protéines plutôt végétales, les fruits et les légumes, en gros, ont plutôt des effets protecteurs, anti-inflammatoires, et sont plutôt bénéfiques pour réduire ce stress biologique, notamment à l'égard du cerveau.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, j'aimerais que vous évoquiez les bénéfices d'un régime méditerranéen pour prévenir, voire atténuer les symptômes dépressifs. Vous êtes appuyé notamment sur des études scientifiques australiennes.
Mais comme l'a dit le professeur, effectivement, on peut intervenir sur des personnes dépressives en changeant leur mode alimentaire. Et cette étude australienne a confirmé que cela pouvait vraiment aider les personnes dépressives, hein, de leur donner un régime méditerranéen. Dans l'étude, par exemple, qui a porté sur une soixantaine de personnes souffrant de dépression modérée à sévère sous traitement antidépresseur ou psychothérapie, la moitié du groupe a suivi un régime méditerranéen pendant 12 semaines, l'autre moitié a mangé comme d'habitude. Et résultat, au bout de 12 semaines, un tiers des personnes ayant suivi le régime méditerranéen étaient en rémission, contre seulement 8% pour les autres. On voit que manger sain serait bon pour notre santé mentale. Hypothèse des chercheurs, si le régime méditerranéen est bon pour le cerveau, c'est peut-être parce qu'il est riche en antioxydants, ce qui permet de lutter contre le stress oxydatif et anti-inflammatoire. Ils avancent aussi, comme on l'a vu, la piste du microbiote. Alors, c'est vrai qu'on va pas certainement pas soigner tous les malades de dépression en remplaçant par exemple leur burger par un tian de légumes, mais c'est une piste quand même. On parle même de psychothérapie nutritionnelle maintenant.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Bonjour Sarah Chiche.
Bonjour Aline.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychanalyste. Alors j'aimerais avoir votre point de vue de psychanalyste sur l'idée que certaines dépressions seraient liées à des inflammations de l'organisme.
Ah ben écoutez, moi c'est très clair. Je pense qu'aujourd'hui tout psychanalyste, au lieu de passer son temps à gloser sur le commentaire du commentaire de séminaire de vieux maîtres, devrait acquérir des connaissances minimales en neurobiologie et en médecine. Et surtout, savoir dire que parfois il ne sait pas. Savoir dire « je ne sais pas » à son patient, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que quand le patient est englué dans une souffrance morale et que rien ne marche, il faut savoir l'envoyer vers un médecin pour vérifier que les symptômes dépressifs ne sont pas liés à un problème organique. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 3 ans, une patiente vient me voir, elle est très déprimée, elle dort sans arrêt, elle est sous antidépresseur, ça change rien du tout. On commence une thérapie et puis au fil des séances, elle se plaint, elle se trouve moche parce qu'elle trouve qu'elle a le visage et les yeux gonflés, qu'elle a pris du poids sans raison, qu'elle perd ses cheveux. Au bout d'un moment, je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc organique derrière tout ça? Et je lui dis, est-ce que vous avez pensé à faire un bilan sanguin, à aller voir votre médecin? Elle fait un check-up et on lui diagnostique une hypothyroïdie carabinée. Or, c'est tout à fait prouvé que les pathologies de la thyroïde peuvent produire exactement les mêmes symptômes que la dépression, alors qu'il n'y a aucune raison psychique d'être déprimée. On lui a donné du lévothyrox et en 1 mois et demi, elle était remise sur pied.
Antoine Pellissolo, bois du petit lait.
Non, c'est parce que bon, c'est bien de le dire, parce que c'est des choses qui arrivent. Alors, pour nuancer juste, on peut avoir les deux, là aussi. On peut avoir une dépression, alors qui va être dans ce cas-là plutôt facilitée ou aggravée par l'hypothyroïdie, et en plus l'hypothyroïdie. Donc, c'est là que, effectivement, le diagnostic du spécialiste de la thyroïde et éventuellement de la médecine derrière psychiatrique va être essentiel pour faire le tri dans tout ça.
Pascal-Henri Keller. Sur ce que vient de dire Sarah Chiche.
Bien entendu que les psychanalystes ne sont certainement pas dans la position de la toute-puissance en disant « je sais tout sur tout ». C'est exactement le contraire. Quand on reçoit un patient pour la première fois, c'est parce qu'on ne fait pas l'hypothèse a priori que c'est ailleurs que dans le cerveau que ça se passe, que le travail s'engage. C'est justement, on part à la recherche avec le patient. Et il m'est arrivé, moi, de nombreuses reprises, comme Sarah Chiche, d'envoyer des patients chez un neurologue, chez un psychiatre même, ou chez un généraliste.
Merci beaucoup, Sarah Chiche. À très bientôt. Question par courriel très rapide. Est-ce que l'activité physique peut prévenir ou bien atténuer les épisodes dépressifs, en tout cas certains symptômes?
C'est un des éléments complémentaires, vraiment, je pense, de plus en plus essentiels. Et d'ailleurs, c'est un retour qu'on a tous les jours quasiment pour certaines personnes qui aiment ça, parce qu'il ne faut pas se forcer quand on n'a pas envie d'avoir une activité physique régulière. C'est essentiel pour entretenir le corps, mais aussi l'esprit.
Pascal-Henri Keller.
Oui, s'intéresser à ce qu'on mange, s'intéresser à son fonctionnement corporel. Surtout en relation avec d'autres personnes, parce qu'on mange en compagnie, on court en compagnie d'eux, bien entendu que ça peut améliorer la souffrance dépressive. Encore faut-il trouver les partenaires pour ça.
Et le sommeil. Dernière chose très importante, c'est de bien dormir pour être...
C'est déjà prendre soin de soi.
Merci beaucoup Pascal-Henri Keller. On n'a plus le temps, un mot rapide.
Un mot rapide, juste pour les personnes qui sont déprimées, il vaut mieux chercher le bon interlocuteur pour parler de sa dépression que forcément le bon antidépresseur.
Je recommande La dépression, que sais-je, publié au PUF. Merci professeur Antoine Pellissolo. Le titre de votre dernier ouvrage?
La dépression, s'enfermer ou s'en sortir, c'est un autre que celui sur la psychiatrie positive. Oui.
Demain, on s'intéresse à tous ces blogs culinaires, ateliers, émissions de cuisine qui nous aident au quotidien et qui favorisent le lien social. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000, demain à partir de 9h, et d'ores et déjà par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com. À la technique ce matin, Théo Gomard et Anne-Laure Cochet. À suivre Nagui et sa bande originale.